France Inter, le 7-9.
Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est vice-présidente de la région des Pays de la Loire, candidat au municipal à la Baule et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy à l'Élysée.
Bonjour Franck Louvrier.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce 1er janvier en direct depuis la Baule. Alors, pour la troisième fois depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a adressé ses vœux aux Français. Pour la seconde fois en plein conflit social, vous, Franck Louvrier, qui connaissez bien les coulisses de l'exercice, qu'en avez-vous pensé ?
Bon, écoutez, c'est sans doute l'intervention la plus élyséenne, la plus cinquième république des trois d'Emmanuel Macron. Il donne à la fois la vision et il laisse le Premier ministre exécuter. Nous sommes vraiment dans l'intervention d'hier soir, dans la pure hiérarchie républicaine. Il ne veut pas être pieds et mains liés avec la réforme. Donc à la fois, il joue le rôle du président rassembleur et le Premier ministre en est l'acteur. Alors mon sentiment, c'est qu'il prend de la hauteur, hein, ça c'est sûr, mais au risque de perdre un peu d'oxygène. Il n'utilise pas les mots qui sont récurrents depuis certaines semaines, c'est-à-dire pénibilité, H-pivot. Et donc cette situation-là, après 26 jours de blocage, mais d'autant plus la pression sur le gouvernement.
Ouais, il utilise d'autres mots, hein. Il fait de la pédagogie, projet de justice et de progrès social, universalité, équité, responsabilité. Ça, ce sont des mots qu'a beaucoup utilisé le gouvernement, qui n'ont pas emporté l'opinion. Est-ce que, selon vous, il a été plus convaincant dans cette pédagogie ?
C'est sûr qu'il y avait une nécessité pédagogique, étant donné qu'il n'est pas intervenu à la télévision pour parler de cette réforme des retraites depuis plusieurs semaines. Donc il utilise 5 minutes sur les 18 pour expliquer la réforme. C'est, à mon avis, un peu juste, d'autant plus que le soir du 31, c'est peut-être pas le moment où les esprits sont plus à même de pouvoir comprendre, ou en tout cas d'accepter ce qui se passe. C'est mon sentiment, une émission qui ne fera pas évoluer l'opinion. Et parfois, je trouve que le ton est un peu comminatoire. Par exemple, il n'y a aucun propos de compréhension de la situation, aucun message à l'endroit des non-grévistes, alors que, par exemple, l'agression d'une conductrice de métro qui souhaitait se rendre au travail a beaucoup marqué les Français.
Vous trouvez qu'il n'a pas été assez à l'écoute de ceux qui ne font pas grève ?
Oui, mon sentiment, c'est qu'il a sans doute pas adressé de message à ceux aussi qui sont dans l'expectative et qui ne sont pas acteurs du mouvement gréviste.
Il a quand même affiché un message de détermination. Hein. Pour ceux qui sont grévistes, en tout cas, et pour, par exemple, un opposant qui est Jean-Luc Mélenchon, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie ?
Non, parce qu'elle cliffe trop. Si vous voulez être dans une posture de rassemblement, il ne faut pas uniquement se plier à la discipline réformatrice. Ça ne peut pas être le seul message. Et parfois, le message de l'écoute, le message de la main tendue, le message de ceux qui sont aussi préoccupés par le mouvement de grève n'est pas toujours entendu. Et je pense que c'est peut-être là le déséquilibre de cette intervention d'hier.
Et lorsque le chef de l'État dit « j'attends qu'Édouard Philippe trouve une voie de compromis rapide », qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une injonction ? Est-ce que c'est un vœu ? Est-ce que c'est en réalité l'annonce d'un compromis qu'il sait être déjà en vue ?
Ce propos, personne n'est dupe. On sait très bien que aujourd'hui, la Ve République, tout se déroule, avec le quinquennat notamment, dans le bureau du chef de l'État. Donc on ne peut pas expliquer qu'en fin de compte, il y a un autre intervenant. Le seul et unique responsable de cette réforme, c'est le chef de l'État, c'est pas le Premier ministre. Et donc là, vous voyez, on met le doute sur, en fin de compte, la répartition des rôles. Parce que le seul qui a été élu au suffrage universel direct, le seul qui a la légitimité politique, c'est le chef de l'État. Et c'est lui et lui seul qui devra rendre des comptes aux Français. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr que le Premier ministre a un rôle d'acteur, mais en fin de compte, le décideur, c'est le chef de l'État. Et c'est pour ça que ça peut créer un trouble dans cette répartition qui n'est en fin de compte pas une répartition réelle, parce que le quinquennat a amené à ce qu'il y ait une centralisation des pouvoirs à l'Élysée.
Donc il n'a pas montré de porte de sortie ?
En tout cas, il n'a pas montré une volonté de vouloir essayer de rassembler au maximum. Il a voulu montrer une volonté réformatrice, mais pas de volonté de rassemblement. Et ça, je trouve que c'était une opportunité hier soir, sachant que c'est l'émission la plus regardée par les Français, comme elle est diffusée sur l'ensemble des chaînes de télévision, elle rassemble parfois plus de 10 millions de téléspectateurs. Et c'était l'opportunité, en un peu plus de un peu moins de 20 minutes, de pouvoir essayer de rassembler l'ensemble de la population française, ce qui n'a pas été le cas hier soir.
Avec votre expérience, Franck Louvrier, que peut-il se passer du coup maintenant sur le terrain ? Le texte, il doit y avoir des négociations la semaine prochaine, le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 22 janvier, au Parlement fin février. Pour ceux dont vous parliez au début de l'interview, qui sont non-grévistes et qui connaissent la grève, les blocages, qu'est-ce qui va se passer selon vous ?
La difficulté de cette réforme, c'est qu'on a annoncé la date de fin. Et quand on connaît la date de fin, et ben du même coup, les mobilisations se font jusqu'à la date de fin.
C'est-à-dire
la première date de fin, c'est le 22 janvier, c'est-à-dire le passage du texte en Conseil des ministres. Et c'est une erreur parce que on sait très bien que la mobilisation va avoir lieu jusqu'au 22 janvier. Vous ne pensez pas que les organisations syndicales, quelles que soient les négociations, vont arrêter avant la date du passage en Conseil des ministres. Donc, on va être un pays sous tension. Avec les dérapages que l'on a vus et ceux dont j'évoquais tout à l'heure entre les grévistes et non-grévistes, on va avoir un pays sous tension parce qu'il va recommencer une année avec, ne sachant pas comment est-ce qu'il va être transporté, comment va fonctionner notre pays. Donc cette tension-là, il ne l'a pas effacée et d'autant plus elle est marquée parce que on connaît les dates suivantes qui vont être assez mouvementées.
Alors sur le fond, la droite est sévère sur la réforme et pourtant la suppression des régimes spéciaux, l'âge de départ qui serait de fait repoussé, la même formule de calcul des retraites que ça soit pour le public et pour le privé, ça c'était quand même bien le projet des Républicains à la présidentielle de 2017.
Oui, mais l'erreur c'est de vouloir faire tout en même temps. C'est-à-dire que vous avez un pays qui doit être réformé, et notamment en matière de retraite, mais vous ne pouvez pas à la fois vous attaquer au recul de l'âge, vous ne pouvez pas à la fois en même temps vous attaquer aux régimes spéciaux, etc., etc. C'est pas possible, parce que vous savez, c'est un pays qui est autobloquant parfois, et qui a la capacité à pouvoir ne pas faire de réforme parce que justement il y a la crainte de la réforme.
C'est une raison pour ne pas voter par exemple pour les députés républicains au Parlement ce projet s'il est présenté en l'état ?
En tout cas il faut qu'il y ait une lisibilité en termes d'action et surtout il ne faut pas que les gens aient le sentiment qu'ils ont été bernés. Et vous voyez là aujourd'hui au fur et à mesure du temps on entend plus les postures et les positions du gouvernement sur le fait qu'on lâche sur certains régimes spéciaux. Donc, en fin de compte, l'universalité pose une question. Est-ce qu'elle est vraiment réelle ? Par exemple, ça, c'est un problème pour voter un texte qui n'est pas universel, alors qu'on le vend universel. Vous voyez, c'est toujours la difficulté de l'exercice. C'est que quand vous voulez attaquer plusieurs réformes en même temps, sur un même sujet, vous risquez de bloquer le pays.
Au municipal, à La Baule, on entend là votre sévérité nationale, mais au municipal, par exemple, à La Baule, il y a d'anciens marcheurs sur votre liste. Est-ce que sur le terrain, la proximité droite, République en marche n'est quand même pas nécessaire ou permise ?
Vous savez, l'équation locale n'a rien à voir avec l'équation nationale. Une élection municipale, c'est une élection qui prend en compte l'ensemble de ceux qui veulent d'une certaine façon faire du bien à leur ville, c'est-à-dire participer à l'activité de leur ville. Vous n'avez pas de clivage aussi fort que vous pouvez en avoir au niveau national. Ce ne sont pas les partis politiques qui font les élections municipales. Ça ne s'est jamais vu sous la Ve République, ça ne se fera pas encore cette année. Donc voilà, donc on a des équations qui n'ont rien à voir, okay. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous essayez de rassembler au maximum pour pouvoir prendre les meilleurs pour votre ville.
Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy et candidat au municipal à La Baule. Merci à vous et bonne journée, bonne
Merci.
Année.
Et bonne année à vous.
Merci Alexandra Ben Saïd, vous revenez tout à l'heure pour le grand entretien 8h20 avec l'avocat Bertrand Perrier.